20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Il était le 9 décembre dernier à la Philharmonie de Paris. Retrouver l'Orchestre de Paris avec lequel il entame cette saison son mandat de conseiller musical et a fait sensation avec ses musiciens dans la 9e symphonie de Gustav Mahler, un concert que nous pourrons revivre dimanche à 21h sur Radio Classique. À cette occasion, Klaus Mäkeles, ce formidable jeune chef finlandais, passera un petit moment avec nous tout à l'heure. Le temps, comme chaque soir, de notre panorama de l'actualité musicale. Un nouvel avenir pour le quatuor Modigliani, un nouvel avenir à Bordeaux après 7 années à la direction artistique des rencontres musicales d'Évian. Les musiciens du quatuor prendront les rênes de Quatuor à Bordeaux, c'est-à-dire un festival qui se tiendra du 20 mai au 8 juin 2021 et un concours international de quatuor à cordes dont la prochaine édition aura lieu en mai 2022. La période que nous traversons nous incite plus que jamais à nous investir davantage auprès de la nouvelle génération de musiciens, mais aussi à nous ancrer dans un territoire afin d'aller au plus près des publics. C'est dans un esprit de transmission et de transversalité des arts que se déroulera la prochaine édition du festival, ont écrit Amaury Couetto, Loïc Rio, Laurent Marfin et François Kiefer, les 4 musiciens du quatuor Modigliani. De nombreux artistes du spectacle vivant ont manifesté hier leur protestation dans toute la France pour demander la réouverture des lieux de culture. À cette occasion, le violoniste Renaud Capuçon a improvisé un mini-récital dans les rayons du Carrefour de Chambéry, jouant des musiques de Bach, de Gluck ou encore de Massenet pour le plus grand bonheur des clients du supermarché. Parce que la culture ne doit jamais s'arrêter, a écrit Renaud Capuçon sur Twitter, tandis que la vidéo de ce concert a fait le buzz sur les réseaux sociaux, comme nous le raconte Philippe Gaud dans son article publié sur le site de Radio Classique. L'opéra comique qui avait imaginé un mini-festival pour la réouverture des salles, prévu initialement le 15 décembre et donc reporté à l'année prochaine, l'opéra comique donnera finalement ses spectacles à huis clos avec les artistes de la troupe de Fantasio, la maîtrise populaire Laurent Campellone et Thomas Joly. Ces spectacles seront filmés et diffusés prochainement sur France Télévisions, mais aussi sur TF1 pour le concert de Noël de la maîtrise populaire, ou encore sur TV5 Monde qui diffusera le soir du 25 décembre le génial cabaret horrifique de Valérie Lessort.
Laure Maison sur Radio Classique.
Direction la Philharmonie de Paris à présent, où le 9 décembre dernier, entre 2 répétitions avec l'Orchestre de Paris, Klaus Mäkeles est venu échanger quelques mots dans notre régie. Klaus Mäkeles, jeune et brillant chef finlandais de seulement 24 ans, nommé l'été dernier directeur musical de l'Orchestre de Paris, un poste qu'il occupera dès septembre 2022. En attendant, c'est en tant que conseiller musical qu'il a entamé sa collaboration avec ses musiciens, témoignant déjà d'un engagement très fort, comme il nous le raconte justement.
Je dirais que l'unique différence entre être un conseiller et un directeur musical, c'est le nombre de semaines que je passe ici. Le problème initial qui a accompagné ma nomination, c'est que dans l'industrie orchestrale, on prévoit toujours des années en avance et mon calendrier était déjà relativement plein. Nous avons donc tenté de trouver le plus de semaines libres possible au cours des années à venir. C'est pour cela que je ne pouvais commencer dès la saison prochaine. Avec un délai de 6 mois. Nous avons donc essayé de trouver autant de temps disponible que possible, car il est pour moi très important de passer du temps avec l'orchestre. Ces 2 années en tant que conseiller musical signifient simplement que je serai moins de semaines ici. Par exemple, la saison prochaine, je serai présent 6 semaines. Mais évidemment, lorsque je débuterai en tant que directeur musical, je serai là bien plus souvent, lors de toutes les semaines standards. Mais il est aussi question de responsabilité. Je suis suis déjà impliqué dans différents domaines de la vie de l'orchestre. Par exemple, les auditions, le futur de l'orchestre et ses engagements, etc. Mais c'est aussi très important en tant que directeur musical de pouvoir décider de la saison en tant que telle et d'avoir une vraie influence à ce niveau. La programmation est très importante et déterminante, et ce que l'on joue définit comment on joue.
Votre relation, Klaus Mäkelä, avec l'Orchestre de Paris a suscité dès le début un immense enthousiasme. Vous avez dit vous-même qu'il s'agissait d'un véritable coup de foudre. Mais maintenant, vous devez construire quelque chose, c'est une autre étape importante, en amour. Avez-vous déjà des idées de projets que vous souhaitez développer avec l'orchestre ?
Je pense qu'il s'agit effectivement d'une question très importante. Le rôle d'un directeur musical est très responsabilisant. Une responsabilité de développer l'orchestre, choisir les bonnes œuvres, mais aussi de réussir à établir un lien et une communication avec le public. Je pense que ce qui est crucial, c'est le choix du répertoire, ce que l'on joue. Choisir certaines pièces permet de guider l'orchestre dans une certaine direction. Nous voulons avoir une grande variété, un panel large de différents genres et différentes pièces, afin que l'orchestre puisse être mis en valeur et capable de se produire dans tous les styles. Mais la relation avec le public est également majeure, puisque nous jouons pour le public. Nous voulons trouver des pièces qu'il aime, mais il est aussi important de trouver des œuvres qui représenteront un challenge qu'il ne connaîtra pas. Cette combinaison est donc très cruciale, et la balance est très importante. C'est pour cela que je dirais que la responsabilité est le rôle le plus important du directeur musical. Thank you.
C'était en juillet dernier à la Philharmonie de Paris et en public. Klaus Mäkelä avait dirigé l'Orchestre de Paris dans le tombeau de Couperin de Maurice Ravel. Alors, Klaus Mäkelä, l'un des chefs les plus courtisés du moment, cumulera deux directions artistiques, celle de l'Orchestre de Paris et celle de l'Orchestre Philharmonique d'Oslo, un orchestre avec lequel il vient justement d'entamer sa collaboration. Envisage-t-il de développer des projets différents avec ces deux orchestres ? On l'écoute.
Oui, je pense que c'est très important, car sinon cela n'aurait pas de sens qu'une même personne soit en charge de deux orchestres. J'ai donc voulu établir deux profils très différents, dirigeant différentes pièces. Et c'est quelque chose que j'avais très envie de faire, car l'une des réalités de la vie de chef d'orchestre est de voyager sans arrêt, de diriger différents orchestres, ce qui est très plaisant et inspirant. Mais sur le long terme, ce à quoi je pense avant tout est la durabilité artistique. Si on travaille avec un orchestre ou avec deux orchestres de manière très concentrée et précise, semaine après semaine, on peut obtenir de bien meilleurs résultats qu'en dirigeant un orchestre pendant une semaine, puis un autre la semaine suivante, avec seulement quelques répétitions. C'est pour cette raison que je souhaiterais m'engager réellement auprès de deux orchestres de manière intense et d'être chef invité de seulement 5 ou 6 de mes orchestres favoris au monde.
Alors Klaus Mäkelä, vous êtes finlandais, vous avez étudié à la Sibelius Academy, cette formidable école de direction en Finlande, auprès de Jorma Panula. Jorma Panula est l'un des plus grands professeurs de direction. Quel est son secret pour apprendre ce métier si particulier ?
Jorma Panula is a very special human being.
Jorma Panula est un être humain unique. Comme vous l'avez souligné, il est le professeur de tous les chefs d'orchestre finlandais, ce qui est un véritable miracle. Il est l'un de ces très bons pédagogues qui savent toujours dire les bonnes choses. Mais il est également très finlandais, et donc il n'est pas très expansif. Enseigner la direction d'orchestre est difficile, puisque c'est par essence une profession très abstraite. C'est évidemment très compliqué de jouer d'un instrument, mais si vous jouez du piano, il y a de nombreuses choses fixes. Si vous faites du violon, vous devez tenir l'archet d'une certaine manière. Si quelque chose est faux, vous pouvez ajuster vos doigts. C'est relativement précis. Mais en ce qui concerne la direction, il y a d'innombrables façons d'être chef d'orchestre. Par exemple, comparez Léonard Bernstein et Pierre Boulez. Ce sont deux hommes qui ont fait le même travail. Et pourtant, il n'y a absolument aucune similitude entre leur façon de faire, du moins d'un point de vue extérieur. C'est une discipline si abstraite qu'il faut donc un professeur qui ne va pas vous dire quoi faire, mais plutôt qui vous donnera des indices et des conseils, sans vous inciter à le copier, sans donner de direction concrète, afin que chacun puisse trouver son propre chemin. Si l'on compare à d'autres chefs finlandais comme Esa-Pekka Salonen, Jukka-Pekka Saraste, Osmo Vanske, Mikko Frank ou encore Susanna Melki, ils sont tous très différents et c'est ce qui est très intéressant. Cela serait très ennuyeux si chacun dirigeait de la même manière, non ?
Bien sûr, mais en même temps, il y a tellement de grands chefs d'orchestre finlandais dans le monde.
Ah oui, c'est vrai, et nous en sommes très fiers.
Alors, comme tous les autres chefs finlandais, vous êtes Klaus Mäkelä, un ambassadeur de la musique de Sibelius, une musique qui n'a pas toujours été comprise par le public français, qui n'a pas toujours été appréciée du public français. Mais les choses ont changé ces derniers temps, notamment grâce à Paavo Järvi, qui a appris à l'Orchestre de Paris à jouer cette musique, à la comprendre, à l'apprécier. Avez-vous, Klaus Mäkelä, le projet justement de diriger des œuvres de Sibelius ici à Paris ?
Absolutely, I mean, Sibelius will come.
Tout à fait. Sibelius interviendra à un moment, c'est certain. Mais je vais attendre un petit peu, car d'une certaine manière, ce serait la chose la plus attendue et la plus évidente venant de moi. Mais ça arrivera, et je suis d'ailleurs très fier de ce qu'a fait l'orchestre avec Paavo. Il s'agit du premier orchestre français à avoir enregistré un cycle entier de Sibelius. Le résultat est absolument magnifique et m'a fasciné.
Vous dirigez également la musique de Mahler, comme ce soir avec l'Orchestre de Paris. Vous avez dirigé une symphonie de Mahler récemment avec l'Orchestre Philharmonique d'Oslo. S'agit-il d'un compositeur très important dans votre répertoire ? Avez-vous des liens particulièrement forts avec sa musique ?
Yes. Mahler is of course one of these composers which
Oui, Mahler est évidemment un de ces compositeurs très importants pour de nombreux chefs. Il est facile de comprendre pourquoi. C'est très stimulant et à la fois si touchant et émouvant. C'est amusant car je viens justement de diriger sa première symphonie à Oslo. Il était très jeune lorsqu'il l'a composée et maintenant c'est sa 9e, dernière symphonie terminée, la 10e étant inachevée. C'est un parcours passionnant à observer, ce qu'il s'est passé dans sa vie et ses évolutions musicales en un peu plus de 20 ans. C'est toujours le cas, mais dans le cas précis de la musique de Mahler, notamment dans sa 9e symphonie, c'est particulièrement émouvant car elle représente la vie en tant que telle. Elle contient toutes les émotions. Elle est très nostalgique. La musique de Mahler va toujours dans deux sens. Elle est très nostalgique, mais elle semble aussi toujours se préparer à quelque chose d'autre, quelque chose de terrible. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une symphonie triste, même si elle est parfois traitée de cette manière. C'est un adieu, mais ce n'est pas un adieu particulièrement triste. Bien sûr, il y a de nombreux passages dramatiques et tragiques dans cette œuvre, mais c'est plutôt quelque chose d'incroyablement animé et fougueux. C'est aussi quelque chose qui se perçoit dans le dernier mouvement, le final, qui est peut-être l'un des plus beaux mouvements de toutes les œuvres de la musique classique. Chaque musicien et de nombreux auditeurs également ont leur propre association d'idées et leurs propres souvenirs liés à ce dernier mouvement. Pour chaque musicien, il a une signification particulière. C'est ainsi un de ces moments très puissants que de sentir que chacun puisse s'identifier si fortement et être touché émotionnellement par une œuvre. Mahler est l'un des compositeurs capables de nous renvoyer à nos propres émotions.
Quelques notes de la 9e symphonie de Mahler par Klaus Mäkelä et l'Orchestre de Paris, captées par les micros de Radio Classique le 9 décembre dernier à la Philharmonie, concert que nous diffuserons dimanche à 21h. Un concert donné à huis clos, sans public donc, mais non sans émotion, non sans vibration, comme vous pourrez l'apprécier dimanche. Klaus Mäkelä a d'ailleurs beaucoup dirigé pour le streaming et pour la radio ces dernières semaines en Europe, et a su trouver dans cet exercice particulier du concert sans public une vraie intensité, comme il me l'a confié.
I mean, let's say, I very much miss the Paris audience, because the Paris audience is something very special, very unique in the world. And the warmth and the enthusiasm, and it's amazing.
Le public parisien me manque beaucoup, car il est vraiment spécial, unique au monde. La chaleur et l'enthousiasme qu'il nous envoie est incroyable. Mais lorsque l'on fait un concert en streaming, nous gardons quand même ce sentiment très fort, celui de jouer pour les gens. Car, bien sûr, nous sommes l'orchestre de Paris et nous appartenons à la ville et à sa population, mais c'est aussi important de garder en tête l'aspect international qui se traduit en général par des tournées et des enregistrements. Ces streamings sont très précieux car ils nous donnent la possibilité de communiquer avec un public très large dans le monde entier, un public qui ne peut pas forcément venir nous voir en concert habituellement. Et curieusement, pour un chef d'orchestre, la différence n'est pas si grande puisque de toute façon, nous ne regardons pas le public lorsque l'on dirige, nous sommes face à l'orchestre.
Mais vous pouvez le sentir.
But let's say, for example, now when we prepared this piece this week, it's something which it was no difference at all.
Oui, bien sûr, nous pouvons le sentir. Mais par exemple, lorsque nous avons travaillé les pièces pour le streaming cette semaine, rien n'était différent et l'orchestre a joué, j'en suis sûr, avec la même intensité qu'il l'aurait fait s'il y avait eu du public. Ce n'est donc pas un point qui m'inquiète.
Alors Klaus Mäkelä, vous avez commencé une collaboration avec l'Orchestre de Paris, mais aussi avec le chœur de l'Orchestre de Paris, qui est un chœur absolument merveilleux. Vous venez justement d'un pays qui a une très grande tradition chorale. Vous avez vous-même chanté dans un chœur. Est-ce que développer ce répertoire est quelque chose que vous souhaitez faire ici, à Paris?
Of course, we are so incredibly lucky with the orchestra to have a choir of its own.
Bien sûr, nous sommes très chanceux avec l'orchestre d'avoir un chœur qui nous est propre et qui plus est si talentueux. J'étais d'ailleurs évidemment très attristé de les perdre pour la seconde symphonie de Mahler que nous devions interpréter. Mais en effet, le répertoire choral est réellement fascinant et nous pourrons l'aborder de façon très variée. Il y aura évidemment des pages du grand répertoire traditionnel qui seront jouées sans aucun doute, mais il y aura également d'autres œuvres plus étonnantes. Nous venons justement d'avoir un rendez-vous en ce sens afin de déterminer ce que nous souhaitons programmer. Nous sommes très chanceux car avoir un chœur associé directement à l'orchestre est bien plus exceptionnel que de faire appel à un chœur extérieur. Mais effectivement, le répertoire choral est très important et intéressant pour moi puisque j'ai d'abord commencé en chantant dans une chorale et donc, bien sûr, nous ferons beaucoup en ce sens.
Et après ce concert à Paris, quels sont vos projets pour les derniers jours de cette année, de cette terrible année? Avez-vous d'autres concerts de prévu?
J'ai un dernier concert, puis je serai à mon tour en vacances. Et c'est d'ailleurs un concert chez moi, en Finlande. Nous devions jouer la Missa Solemnis de Beethoven, mais nous avons dû modifier le programme. J'ai un peu honte de le dire, mais j'ai finalement eu beaucoup de chance. J'ai pu diriger presque toutes les semaines cet automne, j'ai pu voyager, j'ai fait peut-être 30 tests pour le coronavirus, mais j'ai pu voyager, diriger de superbes orchestres, et ça a été merveilleux pour l'âme, pour les émotions, que de pouvoir continuer à travailler, et je suis très reconnaissant pour cela.
Conservez-vous des liens avec les orchestres finlandais, avec la vie musicale de votre pays?
Oui, bien sûr, même si notre agenda en tant que chef d'orchestre est vraiment limité. Je fais en sorte de toujours garder du temps pour la Finlande, en plus de celui que je garde pour tous ces merveilleux orchestres autour du monde.
Et allez-vous passer du temps en Finlande pour Noël?
I will definitely do. And you know, Finland is a lovely place to be. Especially during Christmas, even though it's Corona and COVID is.
Oui, évidemment, la Finlande est un endroit magique pendant la période de Noël, malgré le Corona. Le COVID a impacté la Finlande, mais dans une moindre mesure par rapport à d'autres pays. Donc, c'est assez sécurisé, et j'ai hâte d'y retourner après tous mes voyages de ces 6 derniers mois.
Thank you very much, Klaus Mäkelä. Paljon kiitoksia.
Suuri kiitos, Messi.
Ja hyvää joulua Suomessa.
Oi, kiitos samoin. Kiitos samoin. Ihanaa.
Joyeux Noël en Finlande. Merci beaucoup.
Un nouvel extrait de cette somptueuse 9e symphonie de Mahler, dirigée par Klaus Mäkelä, à la tête de l'Orchestre de Paris. C'était le 9 décembre dernier à la Philharmonie. Concert que nous diffuserons, je vous le rappelle, dimanche à 21h sur Radio Classique. Et cela grâce au soutien d'Eurogroup Consulting, mécène principal de l'Orchestre de Paris. Son président Gilles Bonenfant nous en dit plus sur son engagement auprès d'un orchestre qui l'accompagne depuis de longues années. Déjà.
C'est une rencontre avec l'Orchestre de Paris en 2005, et à l'époque ils étaient à Mogador. On s'est dit cet orchestre-là a besoin d'un vrai élan au moment de son retour sur Pléiade, et donc c'est un mécénat de rencontre entre des personnes qui ont eu envie de s'inscrire dans la durée. Donc c'est une affaire qui regroupe des gens qui sont enthousiasmés par la culture et par les valeurs humaines.
Alors cela fait 14 ans que dure ce mécénat. Vous avez accompagné l'orchestre de Mogador jusqu'à Pléiel et aujourd'hui à la Philharmonie de Paris. Comment décririez-vous l'esprit de ce mécénat? C'est un soutien financier, mais il s'accompagne d'actions, de présence sur place, d'une fidélité.
C'est un soutien financier qui n'a pas faibli au moment des crises de 2008-2009 et qui n'a surtout pas faibli dès 2020, quand nous avons vécu cette succession de crises sanitaires puis économiques. C'est un soutien financier, mais c'est aussi une grande proximité avec l'Orchestre de Paris depuis toujours. Vous le soulignez, ça fait 14 ans qu'on partage des moments forts. Alors, vous faisiez référence au retour de l'Orchestre de Paris à Pléiel. On a eu la chance également d'avoir des moments forts, comme l'Orchestre de Paris qui se produisait en Provence en 2013 pour Electra. Puis on a été enthousiaste au moment où l'Orchestre de Paris a rejoint cet objet philharmonique qui est magnifique en 2015. Et donc on a toujours souhaité accompagner l'orchestre dans son expansion et son rayonnement international, puisqu'on les a également suivis sur quelques représentations à l'étranger. On fait beaucoup de choses avec eux en mélange. On a fait des plénières mélangées entre les consultants et les musiciens. On participe beaucoup à des répétitions générales. Puis on a choisi, il y a 3 ans maintenant, de faire du recrutement à la Philharmonie. On invite un certain nombre de nos candidats à participer à des répétitions générales. Puis après, on fait des entretiens d'embauche sur place. Ça projette nos candidats dans ce que finalement sont nos valeurs et nos proximités avec un environnement qui est de grands professionnalisme, parce que ce sont des grands professionnels, des musiciens comme nous, consultants, et qui nous projettent dans un autre équilibre.
Alors justement, l'équilibre n'est-il pas fragilisé en ce moment avec la crise sanitaire et donc la crise économique? Comment vous êtes-vous positionné, Gilles Bonenfant, par rapport au mécénat en cette période si difficile où tout le monde est touché sur le plan économique, y compris les mécènes?
C'est dans ces moments-là qu'il faut savoir être là. Nous vivons depuis la crise de mars 2020, je vais dire de multiples parenthèses, chacun individuellement, collectivement, professionnellement. Et du coup, il faut travailler le long terme, c'est être proche et être présent et être engagé, comme on l'a dit qu'on le ferait depuis de nombreuses années. J'ai d'ailleurs, il y a quelques jours, signé la convention 2020-2021 avec l'Orchestre de Paris, qui est la même que celle qu'on avait signée l'année dernière. Dans des moments aussi difficiles, on a besoin tous d'avoir une culture, pas d'ailleurs que musicale, qui occupe nos esprits, qui nous permettent de rêver, de nous évader, de penser un peu à autre chose, tout en étant concentré sur le quotidien, qui est celui d'une entreprise qui doit tenir face à une crise qui n'est pas simple, elle est également économique. Et je crois que malheureusement, 2021 nous réservera quelques mauvaises surprises d'un point de vue économique, globalement, au niveau de l'Hexagone et de l'Europe.
Alors, ce ne sont pas des concerts traditionnels que vous soutenez en ce moment, dans la mesure où il n'y a pas de public. Les concerts, désormais, on en profite en ligne, grâce au streaming, et puis, bien sûr, grâce à la radio. Quel regard portez-vous, Gilles Bonenfant, sur cette numérisation de la vie musicale, et qu'est-ce qui vous a incité à apporter votre soutien à ces concerts sans public, à ces concerts diffusés en ligne ou à la radio?
D'abord, une grande surprise, leur capacité d'adaptation, leur capacité à se projeter dans un monde qui n'est pas le leur. Une capacité d'adaptation rapide, une résilience très forte. Et puis, finalement, plutôt que de recevoir du public, ils s'invitaient chez leur public. Je trouvais ça absolument merveilleux. Et c'est là où nous, également, nous devons être à leur côté pour leur permettre de financer ces nouvelles façons d'atteindre leur public.
C'était Gilles Bonenfant, président d'Eurogroupe Consulting, mécène principal de l'Orchestre de Paris. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Charlotte Thoreau-Lassalle pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du violoncelliste Edgar Moreau. Très belle soirée à tous, soirée qui se poursuit en musique avec Francis Drezel.